Si, c'est chaud. Je vais peut-être me déshabiller en ce moment.
On commence à...
Bah écoute, oui, c'est l'heure. Hein.
C'est l'heure.
Allez.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir pour la première conférence du cycle « Les inventions esthétiques de la photographie au XXe siècle », organisée par l'Espace Mendès France en partenariat avec le Master Littérature et Culture de l'Image de l'Université de Poitiers et sous la direction scientifique de Anne-Cécile Guilbard, maître de conférence en littérature française et esthétique. Donc c'est un plaisir ce soir d'accueillir la galeriste Agathe Gaillard, qui est en quelque sorte une pionnière, si l'on peut dire, puisque l'ouverture de sa galerie en 1975 à Paris a été la première à mettre en avant l'art de la photographie. Le titre de cette conférence à deux voix, donc menée par Anne-Cécile Guilbard et Agathe Gaillard, s'intitule « Les photographes sont des gens qui voient mieux que les autres ». Et ce n'est pas sans évoquer cette citation du photographe Bill Brand que j'ai trouvée tout à l'heure sur Internet très facilement, qui disait que le travail du photographe consiste en partie à voir les choses plus intensément que la plupart des gens. Il doit avoir et garder en lui la réceptivité de l'enfant qui regarde le monde pour la première fois ou celle du voyageur qui découvre une contrée exotique. Ils ont en eux une aptitude à l'émerveillement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne conférence. On aura un petit temps de discussion vers la fin. Je vous remercie.
Merci. Oui, merci. Merci, Héloïse.
Il est bon, le micro, je ne touche pas.
Alors peut-être un mot de remerciement justement à l'égard de l'Espace Mendès France qui nous permet de vous proposer ce cycle de conférences. Donc la première, c'est Agathe Gaillard et ce n'est pas seulement au titre de débutant un cycle de conférences qu'elle est première, on va en reparler. J'annonce les suivantes pour votre information peut-être. La deuxième conférence sera assurée par l'historien de la photographie Michel Friseau. Cette conférence aura lieu le 21 novembre. Et puis nous accueillerons en mars, le 8 et le 15, d'abord Robert Pujade, qui est un professeur d'esthétique à Aix-en-Provence, que nous connaissons bien toutes les deux, et qui viendra parler de l'abstraction en photographie. Et Nathalie Boulouk, le 15, donc, qui est une collègue de Rennes, une historienne de l'art, et qui, elle, viendra parler de la photographie couleur. Donc voilà, ces quatre interventions et je remercie encore Agathe Gaillard donc d'être parmi nous ce soir pour ouvrir ce cycle avec ce titre qui en fait est une phrase qu'Agathe a prononcée un jour que nous étions ensemble à la galerie et je me suis dit que quand même il faudrait un jour qu'elle s'explique. Mais peut-être d'abord... On va commencer, parce qu'il y a des étudiants dans la salle qui ne connaissent pas forcément encore parfaitement l'histoire de la photographie, commencer par situer historiquement qui tu es et l'importance de ta contribution à l'institutionnalisation de la photographie en France dans les années 70 et 80. Et puis dans un deuxième temps, je te demanderai donc de me rendre des comptes sur cette phrase fameuse et très belle. Alors fameuse pour moi, pardon, mais je la partage avec vous. Les photographes sont des gens qui voient mieux que les autres. Alors donc, dans un premier temps, oui. La photo dans les années 70, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ouvrir une galerie photo à Paris en 1975? Quel est le contexte? Il n'y a pas de galerie photo. Enfin, il y a des galeries d'art qui commencent, je crois, à ajouter aux tableaux et autres œuvres d'art quelques photographies, mais l'idée de créer une galerie absolument entièrement consacrée à la vente et à l'exposition de photographies, comment ce projet intervient et dans quel contexte?
Alors, comme toutes les histoires, c'est très simple. C'est plus simple que ce qu'on imagine. Je suis née dans le Midi. Je suis venue à Paris parce que quand j'étais petite, je pensais que c'était à Paris qu'il fallait que j'aille, c'est là que Paris m'attendait. Je suis revenue à Paris, j'avais juste mon bac. Et comme j'avais beaucoup lu, je me suis dit, puisque je ne sais rien faire, je pourrais toujours travailler dans une librairie. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque je suis entrée donc à la librairie La Une, qui était la grande librairie de Paris fréquentée par les artistes et les écrivains, où je suis restée 2 ans et demi et où j'ai tout appris de ce qui m'a servi par la suite. C'est-à-dire j'ai appris J'ai appris les clients, j'ai appris les artistes, j'ai appris Paris. Et là, j'ai rencontré des photographes, entre autres, dont Jean-Philippe Charbonnier, qui m'a enlevé, mais que j'ai épousé, et qui était donc le premier photographe de ma vie. Et avec lui alors, je l'ai accompagné dans des voyages, je l'ai regardé travailler, je l'ai observé quand il travaillait. J'ai observé comment le réel devient une photographie, suivant comment, avec quel objectif on regarde et comment on s'y prend et le moment qu'on attend. J'ai vu ça, j'ai vu comment le réel peut devenir une photographie, c'est-à-dire une expression de cette réalité qui est fuyante, qu'on ne sait pas très bien, qui change tout le temps, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et l'œil du photographe fixe sa vision à lui. Et tout d'un coup, quelque chose qu'on a vaguement ressenti se retrouve devant vous, très bien, je vais prendre dans le meilleur des cas, très bien exprimé. Et c'est pour ça qu'on est tellement heureux de voir des œuvres d'art, parce qu'elles expriment ce qu'on a ressenti, mais qu'on n'aurait pas su exprimer. Donc, j'ai connu, en plus de Jean-Philippe Charbonnier, d'autres photographes, et j'étais absolument admirative de ces gens qui étaient... que je trouvais extrêmement intelligent, qui était très cultivé, qui voyait tout. Et qui, alors à l'époque, ils travaillaient pour les journaux, c'est-à-dire qu'ils travaillaient sur commande. On leur a reproché par la suite, mais on les envoyait dans des pays ou dans des milieux sociaux où ils ne seraient pas allés d'eux-mêmes. Mais ils y allaient, ils n'avaient pas peur, ils y allaient, ils s'y confrontaient. Et ils en revenaient avec une grande expérience, des expériences multiples, qui faisaient qu'ils connaissaient parfaitement la vie. Et que c'était, pour moi, c'était des gens qui étaient sages, qui étaient, quand on dit sage, je veux dire, ils avaient une sagesse, mais ils connaissaient la vie. Ils étaient pas impressionnés, ils étaient pas agacés, ils savaient simplement. Et donc, j'avais beaucoup d'admiration pour eux. Et en même temps, ils étaient considérés comme des gens qui n'avaient pas de cerveau. Les journaux, quand ils les envoyaient en reportage, mettaient toujours un rédacteur qui lui pensait et écrivait. Le photographe, il se faisait juste les clics-clacs, c'est tout. Et pourtant, alors, on faisait semblant de croire que les photos étaient l'illustration de ce qui était dit. Alors qu'en fait, on pouvait penser aussi que ce qui était dit était un commentaire de ce qui était montré. Il y avait une certaine rivalité entre l'écrit et le photographique, l'écrit ayant bien entendu le dessus. Et donc, je pensais que ce n'était pas normal et qu'il fallait faire quelque chose pour que la photographie soit respectée et soit reconnue comme une forme de pensée et de création. J'ai eu cette idée que si on montrait la photographie comme une œuvre d'art, peut-être on la regarderait comme une œuvre d'art et on la regarderait autrement. Et je me suis dit, ben voilà, on peut faire une galerie, on mettra des tirages originaux. Comme les photographes se plaignaient en même temps que les journaux censuraient leurs photos, les recoupaient, ou mettaient des légendes qui c'était mieux, hein.
Viens un peu près de moi.
Oui, vous mettez des légendes qui dénaturaient leurs images.
Si, encore un peu.
Oui, ça va ? Super. Ah, ben c'est bien. Et donc, je m'étais dit, si on montre le premier état de la photographie, c'est-à-dire le tirage original tel qu'il sort des mains du photographe, où il n'y aura pas de risque de... qu'il soit, que l'imprimerie le déforme, qu'il soit recoupé, que la légende lui fasse dire autre chose que ce qu'il veut dire, qu'on respecte ce que dit le photographe, je me suis dit, c'est peut-être un moyen. Et en plus, comme personne ne va me payer pour faire reconnaître la photographie, et ben là, je vendrai des tirages et ça financera la galerie. C'est aussi simple que ça. Et donc, j'en ai parlé à... J'en ai parlé aux photographes que je connaissais. J'avais commencé mes premiers... Je ne parle pas trop de moi.
Ça va.
Bon. Non, mais c'est pour qu'on comprenne. Mais mon premier geste dans la photographie, ça avait été d'éditer après 68, où ce que j'avais retenu 68, c'était l'histoire de l'art dans la rue, l'art qui devait être à la portée de tous et qui ne devait pas être que dans les musées pour les gens cultivés. J'avais eu l'idée de faire une collection de cartes postales qui s'appelait les chefs-d'œuvre de la photographie, ce qui choquait les gens qui faisaient chefs-d'œuvre en photographie, il y en a. Et donc c'était choisir des photos des photos de grands photographes, des photos qui soient de belles photos, et en même temps de les imprimer très très bien, parce que mettre l'art dans la rue, ça ne veut pas dire mettre des choses dégueulasses dans la rue. Et donc je m'étais dit, ça sera mettre l'art dans la rue, carte postale, support populaire, et des photographies qu'on peut appeler chefs-d'œuvre de la photographie. Donc ça a eu un succès, puisque ça s'est répandu dans le monde entier pendant quelques années, c'est des collections de cartes postales qui ont fait circuler beaucoup de photos et qui ont créé l'habitude de regarder des photos librement et puis de les choisir et de choisir celle-là et de mettre celle-là avec celle-là. Enfin, ça a joué un rôle. Ça a été la première chose, donc après la galerie, où on me disait, mais vous revenez au tirage original. Pour moi, c'était complémentaire. Le tirage original, c'était ce qui était directement sorti des mains du photographe et qui pouvait signer. Signer, ça voulait dire reconnaître que le tirage lui convenait, que la photo était bien la sienne, qu'elle n'était pas déformée. C'était important. Donc, voilà, j'ai réuni les photographes que je connaissais, que j'avais déjà rencontrés avec les cartes postales, et je leur ai expliqué mon idée. Et ils ont très bien compris tout de suite l'intérêt que ça aurait pour eux. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'ils me fassent confiance. Et donc, je me suis retrouvée à faire la première galerie de photos. Il y en avait quand même dans le monde déjà. Il y en avait une à New York, celle de Lee Witkin, qui avait ouvert en 70. Et c'était Lee Witkin était un photographe de presse qui avait eu l'idée de faire une galerie de photos. Je pense les mêmes motivations. Et il avait eu la chance, lui, d'être... Et puis il y avait une autre, quelques années après, qui avait ouvert à Cologne, Jürgen Wilde. Et dans chaque pays, la situation de la photographie était un peu différente. Par exemple, Lee Witkin avait, dès le début, lui, été soutenu par les universités et certains musées qui chaque année, lui disaient, on a telle somme, qu'est-ce que vous nous proposez pour cette somme? Donc il avait surtout été financé par les universités. En France, c'était différent. Les institutions boudaient la photographie, à part la Bibliothèque nationale qui, en 68, avait chargé Jean-Claude Lemagny de réunir une collection de photographies, ce à quoi il a consacré sa vie. Mais sinon, c'était... Donc, je me suis appuyé surtout, moi, sur les collectionneurs privés. Donc, le marché des collectionneurs privés a été plus important au début en France, a vraiment soutenu l'entreprise. Le marché de la photographie s'est créé sur des collectionneurs privés. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà comment ça a commencé.
Oui, parce que le contexte, effectivement, enfin, vous voyez les rencontres de la photographie à Arles, c'est 1969.
70.
Moi j'ai noté 69. Alors, ouais. Après, il y a eu les rencontres de la photographie, les rencontres internationales de la photographie, les rencontres photographiques, bref, les rencontres qui parlent de photographie à Arles. C'était donc à la fin des années 60. Et c'est vrai qu'on observe à ce moment-là une montée en France, donc à laquelle toi tu participes. Peut-être donc effectivement l'université Shame on Us était en retard, mais
les
heureusement
musées,
les musées, ouais, ouais. Je relisais tout à l'heure Christian Gattinoni qui racontait que dans Beaubourg même, il faut se rappeler qu'en 1977, la photographie n'occupait qu'une mezzanine de quelques dizaines de mètres carrés au troisième étage, avant de gagner d'autres espaces plus étendus, mais toujours plus ou moins nomades. Donc il a fallu attendre la première grande expo pour de 1989, l'invention d'un regard, dont Jean-Claude Lemagny était co-commissaire, pour qu'à Beaubourg, qui était quand même le musée d'art contemporain a priori dans lequel on s'attendait à voir émerger la photographie, lui accorde une place importante. C'est-à-dire que finalement, la photographie, c'est un objet qu'on n'expose pas, comme tu le disais, qui est associé au texte, qu'on trouve dans la presse. Et donc, il fallait l'émanciper de ce texte-là et faire en sorte que le texte se mette à parler de la photographie en tant que photographie. Ça, c'est un autre aspect dont on avait parlé ensemble. La critique photo dans les quotidiens va arriver aussi à cette période-là. Donc, il y a je crois que le tout premier Sophie Figaro, c'est Michel Nuritzani en 1971. Hervé Guibert, qui ouvre la rubrique photographie au journal Le Monde en 1977. Il y a Christian Cojol qui arrive à Libération en 1978. Cela, comment ça va se passer? Parce que finalement, il y a cette même volonté de faire découvrir la photographie au public, de parler des auteurs, de parler d'un art qui ne serait plus seulement donc des photos illustratives d'articles de presse. Comment ça s'est passé, les rapports justement avec les critiques photos?
Alors justement, oui, je voulais dire que quand même Michel Guy en 74, je crois, ministre de la Culture, avait fait entrer, je ne sais pas quel est le terme exact, mais enfin il avait reconnu la photographie comme faisant partie des arts plastiques, et il avait nommé Pierre de Fenouille responsable, qui après s'est retrouvé responsable au Centre Pompidou. Donc effectivement, il avait beaucoup de mal, il n'avait pas beaucoup de place, c'est sûr. Donc on s'est retrouvé quand même, en 75 j'étais seule, mais quand le Centre Pompidou a ouvert, je crois que c'était en 77, les galeries ont voyagé de la rive gauche jusqu'autour de Centre Pompidou, et on s'est retrouvés en 1980, il y a une douzaine de galeries de photos. Pour nous, c'était bien, parce que ça nous légitimait. Parce que si on est seul, c'est un truc bizarre. Mais si on est 12, ça existe, c'est sérieux. Et donc chacun faisait son idée, c'est quelque chose de très personnel, c'est pour ça que les galeries portent le nom de leur... de ce qu'ils font, parce que c'est une aventure personnelle dont on est responsable. On se surveillait, parce qu'on avait conscience que ce n'était pas facile, mais qu'il ne fallait pas faire de bêtises. Donc, dans le monde entier, ça s'est mis à part des galeries, et il y avait des gens qui voyageaient, qui racontaient ce qui se passait dans une autre galerie. Et tout ça, dans le monde, ça faisait des liens. Et on avait compris qu'on faisait le même métier, mais chacun à sa façon, et qu'il ne fallait pas se tromper, sinon on allait tout gâcher. Alors, au départ, c'était soutenu par... Il y avait déjà des gens qui s'intéressaient à la photographie, il y avait certains photoclubs qui étaient de haut niveau, et puis il y avait des gens qui collectionnaient les photos au puce, et puis il y avait déjà des sortes d'historiens, moi j'ai oublié, non, mais... il y avait des gens qui s'intéressaient à la photo. Et comme il y a eu tout de suite beaucoup de gens qui venaient voir les expositions dans les galeries, il y a eu des critiques. Et souvent ces critiques étaient des jeunes gens qui, comme les journaux se disaient, il faut parler de la photo, mais qui veut en parler? Personne ne voulait en parler parce que personne ne savait. Et il y a eu beaucoup de jeunes gens qui sont entrés dans les journaux en disant, moi, je peux parler de la photo. Il y a eu donc Hervé Guibert qui est entré à 21 ans au Monde, Christian Cojol, à peine plus âgé, à Libération. Il y avait André Laude qui, lui, était poète, écrivait dans les Nouvelles littéraires. Michel Nuritzani au Figaro. Et ces jeunes, puis il y avait aussi François Alexandri au Matin de Paris. Enfin, ces jeunes critiques avaient ça de formidable, c'est qu'ils découvraient la photographie en même temps que le public. Et d'ailleurs, quand on voit les premiers articles d'Hervé Guibert, il raconte ses aventures d'Hervé Guibert. Il raconte, j'entre dans la galerie, il se passe ça, je vois ça. Il raconte ce qu'il découvre et ce qu'il voit. Mais comme ils étaient heureusement très intelligents, ils prenaient la photographie au sérieux. Il s'était passionné, il se disputait pour être le premier à faire l'article, ça a changé, et ils écrivaient ce qu'ils voyaient. Il n'y avait pas de communiqué de presse. Ils venaient, ils voyaient et ils écrivaient ce qu'ils avaient ressenti et ce qu'ils voyaient. Donc, en les lisant, on découvrait aussi. Donc, on était tous dans la découverte, puisque même les galeries, on ne savait pas, on découvrait aussi. Donc, tout le monde était dans la découverte en même temps et s'enthousiasmait ou pas. Et personne n'avait le pouvoir de décider ce qui était bien ou pas. C'était chacun. Et comme, par exemple, Hervé Guibert était un jeune, très jeune écrivain, et comme il écrivait très bien, il était très lu. Et donc, beaucoup de gens se sont intéressés à la photo en le lisant, parce qu'il était intéressant. Et comme il s'intéressait à la photographie, il a rendu la photographie intéressante. Donc, ce qui explique que pendant longtemps, en France, c'est le milieu littéraire qui s'est le plus intéressé à la photographie, bien, bien avant les gens de l'art en général. Il y a toujours eu cette... je pense que la France, en effet, apprécie beaucoup une photographie qu'on peut appeler littéraire, qui fait référence plus au littéraire qu'à la peinture, qu'à l'art plastique.
Oui, les exemples ne manquent pas. On pense à Denis Roche, par exemple, qui est à la fois poète et... poète et photographe, qui a beaucoup fait avec les cahiers de la photographie, justement encore à cette époque-là, en créant les cahiers de la photographie, alors pas tout seul, hein, avec Claude Nory, Gilles Morat, je ne sais plus qui il y avait d'autres.
Mais Denis Roche est très important.
Mais voilà, mais Denis Roche, en tant que poète, en tant que photographe et en tant qu'éditeur au Seuil, oui. A évidemment une très très forte contribution à cette... à cette invention de la photographie comme un art littéraire, on pourrait dire ça, tu crois? Ou il faudrait préciser, hein.
Je ne dirais pas un art littéraire, mais je dirais une forme d'expression très personnelle, très en rapport avec l'inconscient, comme est l'écriture. Pour moi, la photographie, c'est une écriture. Et d'ailleurs, Ralph Gibson, qui était un photographe américain, qui a fait partie des photographes qui m'ont encouragé au départ, parce que lui-même avait décidé quelques années avant de ne plus accepter de commandes et de travailler comme un auteur, et il avait même créé sa maison d'édition pour faire ses livres comme il le voulait, c'est-à-dire sans texte, ni préface, ni texte, parce qu'il considérait que la photographie était une écriture et que la mise en page était une écriture. Et donc il y avait à la fois le désir d'échapper à l'écrit, de rester libre chez les photographes, parce qu'il faut dire que c'était assez admirable, mais ils sont entrés dans le monde de l'art et dans le marché de l'art avec assez d'effronterie. Ils n'ont pas cherché à plaire, ils n'ont pas cherché à se déguiser en artiste, ils sont entrés comme photographes. C'était assez... c'est magnifique. Il n'y avait pas de flatterie pour oui, prenez-moi dans ce milieu, regardez, je suis un artiste. Non. Ce qu'on voulait, c'est pas qu'il y ait une photographie de reportage, une photographie industrielle, et puis une photographie artistique. On voulait que toute la photographie soit considérée, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, mais tous les styles de photographie étaient intéressants, puisqu'ils étaient faits avec un appareil photo. Et comme... j'ai vu récemment que Irving Penn le disait, que l'art n'avait pas changé, simplement le pinceau était remplacé par l'appareil photo. Mais c'était juste l'appareil qui changeait, mais le regard de l'homme sur le monde et ce qu'il exprimait, c'était toujours la même aventure. Donc il se trouvait que la photographie, avait depuis un siècle et demi déjà, avait beaucoup dit et qu'il était temps de la regarder. Et de la regarder comme une expression personnelle. Et ça, tout de suite, ça a été accepté. D'ailleurs, il y a eu des résistances. Il y a toujours des résistances. Il y a eu des résistances qui se sont manifestées, par exemple, au départ, par le public qui disait, mais ce ne sont que des photos. Je leur disais, mais faire une bonne photo, c'est aussi difficile que faire un bon tableau. C'est pas plus... Il y a très peu de photos excellentes.
Alors, c'est quoi une photo excellente?
Qu'est-ce que c'est un tableau excellent? Qu'est-ce que c'est qu'une cuisine excellente? Qu'est-ce que c'est... Ah, c'est quand... Pour les artistes, il y a une expression que je trouve assez bonne, c'est qu'on est, Un grand artiste est celui qui est reconnu par ses pairs. Ça, ça ne trompe pas. Le public peut se tromper. On aime des choses qui vous ressemblent. Donc. Mais quand un photographe dit d'un autre photographe, ça, c'est un grand photographe, là, il ment pas. Par exemple, je crois que le photographe préféré des grands photographes, c'est Kertész. Alors pourquoi ? Parce que Kertész, d'abord, il a été photographe de l'âge de 18 ans à l'âge de 91 ans, sans s'arrêter. Et puis parce qu'il savait parfaitement prendre un petit sujet de rien du tout et, par la lumière, par l'appareil, en faire une œuvre d'art. C'était cette facilité à faire du rien, à en faire une œuvre d'art qui est, je crois, que les autres photographes admiraient. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi une photo ? Eh bien, pas, ça dépend. Ça dépend. Mais c'est les photographes eux-mêmes qui regardaient leur planche contact, sinon il y en avait, et qui choisissaient. Et quand on regarde planche contact avant un photographe, on trouve, tiens, ça c'est bien. C'est pas du tout ça qu'il choisit. Et là, tu te rends compte qu'il a raison. Parce que soi-même, on regarde d'après ce qu'on sait de lui. Alors que lui, il est déjà en avance sur ce qu'il va faire. Et donc, c'est évident qu'il n'y a qu'eux qui peuvent choisir et laisser ce que Cartier-Bresson appelait les épluchures. C'est-à-dire celles qui sont des tâtonnements, des essais. Puisque si vous dessinez, vous pouvez gommer. Mais si vous photographiez, ça reste. Donc il y a évidemment des choses qui sont faites pour disparaître. Maintenant, il peut arriver aussi que 50 ans après, les photographes retrouvent des photos qu'ils ont laissées passer parce qu'ils étaient pressés ou parce qu'ils retrouvent et qu'ils ressortent. Ça peut arriver aussi. Mais je pense qu'il n'y a que le photographe qui peut choisir. C'est comme ça que son style et sa vision se manifestent. On ne peut pas choisir pour lui, sinon on va choisir suivant sa propre vision.
Mais alors, ça présuppose que le photographe soit déjà un grand photographe, non. Enfin, qu'il sache.
Non, parce que si tu prends l'œuvre des grands photographes, dès leur première photo, il y a eu une ou deux photos qui sont restées célèbres. Donc ils n'avaient peut-être pas encore l'habitude, les techniques et tout, mais ils avaient l'œil déjà. Et ça, l'œil, c'est comme l'oreille, on l'a ou on l'a pas.
Et est-ce que tu peux le définir un peu, cet œil ? Est-ce qu'il est définissable ?
Est-ce que l'oreille est définissable ? Ben, je sais pas.
Parce qu'on voit là, par exemple, dans les photos de Kertész qui défilent, là, donc c'est sur le site Photo Arago, on voit bien qu'il y a une construction à chaque fois impeccable.
Voilà. Cette photo, c'est Eric Dancer, c'est la première photo que j'ai vue de Kertész quand je faisais les cartes postales. Et j'ai vu cette photo dans un vieux numéro de magazine allemand qui s'appelait Doux. Et Kertész était parti de France. Et j'ai vu cette photo et j'étais complètement à l'arrêt devant cette photo. Et à partir de là, je l'ai cherché parce que je voulais lui écrire pour faire une carte postale. Et je l'ai cherché. J'ai fini par apprendre qu'il vivait à New York, qu'il était oublié. Et j'ai trouvé son adresse et je lui ai écrit en lui demandant s'il voulait bien que je fasse une carte postale avec cette photo. Et il m'a répondu oui. Et il était très content parce que je pense que c'était une demande qui venait de France. Il était resté très nostalgique de la France. Et cette photo, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, elle reste ma photo, on ne peut pas dire préférée, mais oui, je ne m'en lasse pas. Elle est sur le mur chez moi et je la trouve. Alors, qu'est-ce qu'elle a de bien ? C'est une photo qui a été faite dans l'atelier du sculpteur Beauty, qui était un Hongrois, Emil Kertész. Magda était aussi une Hongroise, une danseuse satirique. Et donc, il existe trois négatifs seulement de cette photo. J'imagine une soirée chez ces gens, et puis Kertész qui entraîne Magda en lui disant « on va faire une photo, invente-moi quelque chose ». Et elle a fait ça en référence aux sculptures. Et cette photo, je trouve, pour moi, elle est tellement évocatrice que j'ai l'impression que j'y ai été là. Elle est entrée dans mes souvenirs. J'ai l'impression que j'y ai assisté, que j'ai été là en 1926 dans l'atelier de Beauty, que j'ai vu ça. c'est aussi clair pour moi que si j'avais été. Et donc je pense que c'est ça, une grande photo, c'est une photo qui entre dans votre souvenir, qui fait partie de votre mémoire, qui fait partie de vous, qu'on adopte complètement, qui entre en vous. Je pense que c'est plus ça qui est important, qu'on peut toujours dire oui, elle est bien cadrée, elle est bien tirée, bon, ça c'est important. Mais on peut trouver à certaines photos des tas de qualités et puis on s'en fout. Et puis il y en a qui sont, font partie de vous, comme certains poèmes, comme certains livres, comme certaines chansons. L'art exprime ce qu'on a ressenti. Et l'art ne nous parle que de nous-mêmes. Simplement, il le dit très très bien. Sinon, si on n'a pas ressenti quelque chose à l'avance, on s'en fiche. On dit oui, c'est bien, mais on s'en fout. Pour que ça nous concerne, que ça nous bouleverse, parce que ça peut bouleverser. On peut pleurer devant un tableau dans un musée. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi celui-là? Pourquoi ce tableau-là? Pourquoi il vous émeut à ce point? Pourquoi il vous bouleverse à ce point? Parce qu'il réveille en nous quelque chose qu'on a ressenti plus ou moins bien, mais qui restait en suspens, vaguement, et tout d'un coup, quelqu'un l'exprime très très bien.
Mais alors, je viens, pendant que tu oui. parlais, de mettre l'image précédente complètement par hasard.
Hein, oui.
Et c'est la fourchette.
Oui.
Et là, sur une image comme celle-ci, évidemment, c'est pas tant un sentiment de projection et d'y être avec le photographe. Est-ce que tu l'aimes, cette photo?
Bien sûr. Alors celle-là, on peut plus l'admirer pour des raisons, on sait pourquoi. Elle est... D'ailleurs, je pense que c'était une photo de publicité, au départ. Elle a été faite pour ça. Elle est très simple. On imagine une cartèse, photographier une fourchette, place, il la place. Et ça... Il n'y a pas à l'expliquer. Elle nous étonne. Pourquoi? Par sa simplicité, par la beauté des matières. Vous disiez?
Oui, c'est de la pure photographie, puisque le centre est occupé par l'ombre de la fourchette plutôt que par son sujet lui-même. Et du coup, c'est vrai que c'est... Alors, c'était quelque chose qu'on trouvait beaucoup dans les années 30, et il n'y a pas que Kertész qui travaille en publicité manière-là. Mais c'est vrai que cette fourchette d'André Kertész a fait date dans l'histoire de la photo, avec à la fois cette simplicité absolue. Et une fois qu'on est sorti, évidemment, du contexte de la publicité, où là encore la photographie était ancillaire, elle était au service d'eux, donc au service de la vente de quelques produits. Cette photo-là de Kertész, on pouvait la sortir, retirer le slogan, le nom d'une marque, etc. Elle tenait, et elle tenait toute seule.
Je ne pense pas qu'à l'époque où il l'a faite, elle était aussi admirée. Je pense qu'elle était une photo parmi d'autres. Et c'est après qu'on a été séduit par son élégante simplicité, par son culot.
Oui, mais c'est ça, en fait. Ce que tu as appris à faire aux gens, avec les critiques photos, dans cette période-là, c'est à regarder des photos pour elles-mêmes et aller...
Et justement, ce que j'ai appris en faisant ce métier, c'est à neuf. Je ne sais pas commenter les photos, parce que j'ai l'impression que d'en parler, c'est les traduire dans notre langage. Et je suis tellement entré dans l'écriture de la photographie, et en même temps, c'est une digression, mais depuis 1983, je pratique le Qigong, qui est une discipline chinoise, justement, on se passe des mots, où c'est le corps qui exprime les choses. Et donc ça m'a beaucoup aidé à regarder les photos et à les comprendre et à entrer dedans sans les traduire. Et quand on me demande de les traduire, je suis assez embarrassée parce que j'ai l'impression de tourner autour alors que j'ai envie de dire, mais regardez, ça se voit. Et c'est vrai, ça se voit. C'est comme si on voulait traduire en mots la musique. C'est autre chose qui se passe. Donc pour moi, c'est équivalent, hein, je ne dis pas que c'est supérieur au mot, mais c'est deux façons différentes d'aborder les choses. Alors, pourquoi une photo est bien, je suis incapable de le dire. Il me semble que ça se voit. Et si on ne le voit pas, il n'y a pas à avoir honte. On ne le voit pas, c'est que ça ne vous parle pas à vous. Ce n'est pas votre histoire, donc il n'y a pas de honte à avoir. Si on ne trouve pas bien. Mais une photo, ça peut vous transpercer complètement, vous transpercer et vous combler. C'est une réponse à quelque chose. C'est une réponse à quelque chose si on l'aime, cette photo. On a tous vu des fourchettes posées sur des assiettes. C'était plutôt moche. Et justement, il a transfiguré, là. Donc tout peut être beau. Justement, l'artiste est celui qui, dans une chose triviale, voit la beauté. Ce qu'on n'arrive pas toujours à faire, nous. Il y a des photographes qui savent voir la beauté dans un tas d'ordures, alors que nous, on voit un tas d'ordures. Moi, j'ai une photo de Kate Barry, qui n'est pas une photographe très très connue, Kate Barry. Kate Barry est la fille de Jane Birkin, qui est morte accidentellement. Et donc, j'ai aidé à faire sa première exposition à la Galerie Cinéma. Et j'ai une photo d'elle que j'aime de plus en plus, que j'avais achetée, qui représente un tas de... Vous savez, quand on balaye, il y a fait un tas de balayures, comme ça, puis il y a quelques feuilles, il y a quelques trucs, comme ça, puis il y a la poussière. Elle a photographié ça. C'est très, très beau. Et je ne m'en lasse pas, cette photo. Bon, elle a vu la beauté dans des saloperies qu'on jette. Donc, elle est partout. Et je trouve que c'est extraordinaire quand un artiste, il sauve comme ça des choses qu'on mépriserait. Et il les sauve et il en fait quelque chose un sujet d'admiration qui nous dit on peut aimer tout dans la vie si on sait voir. On est entouré de beauté. On est entouré de choses qui ont un sens. Et on ne sait pas les voir. Et les artistes nous aident.
Mais toi oui. Aussi, tu as eu, je crois, la Légion d'honneur en 2007, c'est ça, pour ton œuvre de galeriste. Autrement dit, il y a, qui est reconnu, une œuvre de galeriste, donc un regard photographique qui n'est pas celui des photographes dont tu viens de parler et auquel tu rends là devant nous systématiquement la responsabilité, l'honneur et le talent qui est le leur. Mais ton travail à toi, c'est aussi une affaire de regard. Toi aussi, tu es vraisemblablement quelqu'un qui voit mieux que les autres.
Un regard récepteur, moi.
Alors, vas-y, ouais, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que moi, si... Par exemple, on m'a souvent demandé pourquoi vous n'êtes pas photographe. Et ce que j'ai envie de répondre, c'est si j'étais photographe, je vivrais dans mon univers. Tandis que là, j'ai eu accès à l'univers de tous. J'entrais dans un univers, je savais que je pouvais en sortir. Donc j'y entrais à fond, sans avoir peur. Puis j'entrais dans un autre. Et donc j'ai bénéficié du regard de tous les photographes qui ont enrichi ma vision de la vie. Et je me suis aperçu effectivement qu'on est tous, pareils. Et quand j'aime le regard de Kertész, quand j'aime le regard de Cartier-Bresson, quand j'aime le regard de Gibson, c'est parce que je m'y reconnais. Et donc ça démultiplie ce qu'on a en soi, au lieu de se cantonner dans un petit soi, celui qui est autorisé, celui que le métier autorise, celui que la famille autorise. On s'ouvre à tous les autres. Et bon, je ne sais pas si je m'exprime très bien. Parce que là, alors pour la Légion d'honneur, je suis désolé, ça a été une aventure difficile pour moi. C'était quand on m'a annoncé qu'on l'avait demandé pour moi, c'était les gens de Paris Photo qui l'avaient demandé pour moi. Et j'étais très en colère parce que ça me paraissait ridicule. Parce que mon père disait toujours, quand j'étais petite, il ne faut pas avoir la Légion d'honneur, tous les voyous l'ont. Et donc j'étais restée sur cette impression. Et je ne voulais pas. Et puis bon, ça me mettait très très mal à l'aise. Je ne comprenais pas ce que ça avait à voir avec moi. Et puis, c'est Jean-Pierre Seguin, qui était un vieux monsieur, qui avait été directeur du cabinet des estampes et de la Bibliothèque nationale, et qui a été le créateur, l'inventeur et le créateur de la BPI, Centre Pompidou, c'est-à-dire la première bibliothèque qui était ouverte à tout le monde. Et je connais des jeunes gens arrivés à Paris sans aucune culture, se rendant compte qu'il leur manquait quelque chose et qui passaient leur soirée au Centre Pompidou à regarder des films, à lire des livres. Bon, cette bibliothèque a joué un rôle formidable. Et donc, j'aimais beaucoup Jean-Pierre Seguin parce que pour un institutionnel, il avait un franc-parler extraordinaire. Il me plaisait beaucoup, m'amusait beaucoup. Il était extrêmement cultivé. Et heureusement, il venait souvent me voir à la galerie. Et donc, c'est lui qui a entrepris de me dire « Mais non, tous les voyous, il n'y a pas que des voyous qui ont la Légion d'honneur. » Et ah, il faut l'accepter. Et petit à petit, patiemment, et à la fin, je lui ai dit « Bon, d'accord. Mais alors, est-ce que vous voulez me la remettre ?» Et là, il m'a dit « Je te demande 48 heures de réflexion. » Et à la fin, il m'a dit « D'accord. » Et de lui, je pouvais l'accepter. Et voilà, il m'a réconcilié avec cette idée, parce que j'étais d'une génération de rebelles. Et donc, l'idée qu'on me donnait une récompense, une bonne note, me mettait hors de moi.
Moi, ce que j'aimais bien dans cette histoire-là, c'est pas tant ce titre, voilà, ce statut, que la raison pour ton œuvre de galeriste. Et en fait, c'est ça, moi, que j'avais retenu, une œuvre de galeriste. C'est-à-dire que, là, je fais passer les quelques images de photographes que nous connaissons tous, qui étaient déjà un peu connus, mais tu as participé à leur notoriété. Mais ton œuvre, elle a consisté aussi à non seulement donc faire découvrir au plus grand nombre des photographes qui étaient déjà, en fait, déjà des grands photographes, mais aussi à découvrir des nouveaux talents, des nouveaux photographes, à en lancer.
Si on peut appeler ça une œuvre, mon œuvre, ça serait simplement d'avoir été, de m'être effacée devant les photographes, de les avoir cherché à les mettre en avant. Et c'est vrai que c'est un métier galeriste où être prétentieux n'aide pas. J'ai découvert avec le temps que plus on s'efface derrière les photographes, plus on existe. Parce que justement, le métier de galeriste, c'est aider aider à aimer les artistes, aider à les comprendre. Donc pour ça, il faut s'effacer derrière et les mettre en évidence et les montrer le mieux possible. Et le seul moyen créatif, c'est l'accrochage. Par la manière dont vous accrochez les photos, c'est comme ça que les gens vont les voir. Et donc vous apprenez petit à petit, en les écoutant, à les faire à savoir qu'il y en a deux qui s'aiment, qui vont ensemble se faire du bien, et qu'il y en a une qui, à côté, va démolir celle-là, et que celle-là, c'est une tueuse, elle ne supporte personne, il faut la mettre toute seule. Et en les regardant, en les écoutant, vous apprenez qu'elles ont une vie propre et une vie très forte, et que vous n'en faites pas ce que vous voulez. Et c'est en étant à leur écoute, et tant que le mur vous dit non, ça ne va pas, ben c'est que ça ne va pas. Et il ne faut surtout pas imposer quelque chose intellectuellement, par sa volonté. Il faut être à l'écoute des photos. Et vous apercevez qu'elles sont extrêmement vivantes et qu'elles savent très bien ce qu'elles veulent. Et si elles ne veulent pas de celle-là à côté, elles vous le font très bien comprendre. Et donc, c'est très important parce que c'est ça que les gens vont voir. Et vous pouvez complètement casser une œuvre si vous l'accrochez mal. Et pour ça, pour accrocher bien, il n'y a qu'une règle, c'est l'humilité. C'est pas du tout de vouloir les dominer, c'est de les écouter, justement. Et c'est très intéressant. Moi, j'aime bien accrocher l'exposition avec le photographe. Quand ils sont pas là, je fais seul, mais j'aime bien avec le photographe parce que lui connaît bien ses photos et moi, je connais bien les murs. Et donc, généralement, au début, ils arrivent et ils ont toujours quelques photos qui viennent juste de faire et auxquelles ils tiennent. Et moi, je vois qu'elles ne vont pas rentrer avec les autres. Mais je dis rien. Et donc, on commence à accrocher. Et en général, au bout d'un quart d'heure, les photographes les plus intelligents ont compris que c'est les murs qui commandent. Ils ont compris. Et donc, on fait ensemble, on écoute ce que disent les murs. Et ces photos-là, elles se retrouvent sans place. Il n'y a pas eu de place pour eux. Et à ce moment-là, les photographes ne les aiment plus, ils s'en foutent complètement. Moi, je savais que ça allait arriver. Mais eux, ça s'impose à eux. Donc, ils assistent eux-mêmes à la mise en place, à la mise en... comment on peut dire, en vision, comment on dit, en spectacle de leur œuvre. Ils ne savent pas en arrivant que cet endroit va générer ça. Et en même temps, j'ai eu cette expérience avec la rétrospective Hervé Guibert que j'ai accrochée partout dans le monde. C'était jamais la même. Parce que j'arrivais avec les mêmes photos dans un endroit très différent et je devais faire en fonction des murs. Et du coup, je découvrais que tiens, j'avais jamais mis cette photo à côté de celle-là et c'était intéressant. Et j'avais jamais isolé celle-là. Chaque fois, c'était une autre histoire qui se passait. Il n'y a pas d'accrochage définitif et idéal. C'est la pièce où on est, la lumière de l'endroit, les murs qui font que ce jour-là, ces photographies, qui pour moi sont des choses vivantes, jouent cette pièce-là. C'est la partie créative de mon métier. C'est très intéressant.
Et donc là, j'ai fait passer, pendant que tu parlais, un petit peu de photographie d'Hervé Guibert, un petit peu de photographie de... Non, ça c'est Ralph Gibson. J'ai passé Manuel Alvarez Bravo et Gisèle Freund, qui sont de très grands noms. Ça veut dire que tu...
Hervé Guibert l'est devenu. Personne n'en voulait au début.
Ah.
Alvarez Bravo, Gisèle Freund, Kitty Cartes étaient déjà très reconnus par les photographes. Mais Hervé Guibert était un petit jeune homme qui écrivait au Monde et qui, quand il s'est mis à faire des photos, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que quoi, il faudrait savoir qu'il choisit, s'il est critique de photos ou il fait des photos. Mm-hmm. Et puis après, c'était oui, l'écrivain ou les photographes. Il disait, ben oui, c'est faire les deux, lui. Mais personne n'en voulait au départ. Hervé Guibert, photographe et même écrivain. Et son premier livre, L'image fantôme, il a attendu 2 ans en éditeur. Heureusement que. Minuit l'a fait.
Oui, alors, d'Hervé Guibert, dont nous sommes pour Agathe.
Admiratrice.
Voilà, dont nous sommes toutes deux admiratrices. Il y a L'image fantôme 1981. C'est le deuxième livre à la première personne écrit sur la photographie en France. Le premier étant celui de Roland Barthes, La Chambre Claire. Et puis, il y a aussi d'Hervé Guibert le recueil de ses articles publiés dans Le Monde sur la photographie chez Gallimard. Ça s'intitule La photo inéluctablement. Donc.
Titre choisi par lui.
Oui, parce qu'il avait préparé ce dossier pour une publication posthume. Mais alors, voilà, oui, découvrir, enfin, ou exposer Hervé Guibert qui n'est pas connu. Est-ce que tu as d'autres Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu accueilles et comment tu choisis un photographe qui arrive, c'est qui ne s'appelle pas Manuel Alvarez Bravo ou Gisèle Freund et qui arrive avec son book À qui tu vas dire oui et pourquoi ? Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui va t'accrocher ?
Moi, c'est relativement simple. Si j'ai envie de voir ça pendant un mois sur les murs, si j'ai furieusement envie, ou si je n'ai pas envie, ça y est, j'ai déjà vu. C'est ce qui m'a toujours guidé. C'est très difficile, surtout les jeunes photographes, parce que sur 50 qui sont prometteurs, 20 ans après, il en reste 2, parce que les gens, généralement, au bout de 10 ans, ils ont tout dit. Parce que généralement, ce qu'on a à dire, c'est des choses qui viennent de l'enfance. Et puis après, bon, là, elles sont dites. Donc quelqu'un qui fait des photos toute sa vie, pendant 50, 60 ans, ça, c'est admirable. Mais enfin, moi, l'âge des photographes, ça ne m'importe pas. Ni leur nationalité, c'est plus. Est-ce que j'ai. Bon, au départ, la première année, il fallait apporter une crédibilité à l'idée de galerie de photos. Donc, ce que j'ai choisi dans la première année, c'était effectivement. J'étais assez contente après le choix que j'avais fait. J'avais commencé par Ralph Gibson. Est-ce qu'on développe ça ?
On peut un petit peu.
J'avais commencé par Ralph Gibson. Donc, j'avais connu jeune photographe américain qui était venu me voir en 1973 pour faire une carte postale. J'avais trouvé ces photos, je les regardais en me disant, je n'ai jamais vu des photos comme ça. Bon, on est devenus amis. J'étais donc principalement soutenu dans mon désir par Jean-Philippe Charbonnier, qui était un reporter photographe, mais très cultivé. Famille de collectionneurs, d'amateurs d'art, donc qui était parfaitement au courant de cette façon de voir les choses. Et dans la première exposition, c'était Gibson, parce que dans les photographes français que je connaissais, c'était difficile d'en choisir un. Et pourquoi pas les autres, je me sentais que c'était un problème. Tandis que là, Ralph Gibson, jeune photographe américain, qui avait décidé de travailler comme un auteur et qui avait rompu avec toutes les commandes, il était assez représentatif. Après ça, Cartes, que je rencontre à Arles pour la première fois, parce qu'il m'écrit, je suis invité aux rencontres d'Arles, j'espère vous y rencontrer. On se connaissait par la carte postale, on avait échangé quelques lettres. Donc, et là, je vais à Arles, et puis j'essaie je lui demande, je voudrais faire une exposition. Et il y avait tant de gens qui étaient autour de lui qu'il ne me répondait pas. Et puis c'est sa femme Elisabeth qui m'a dit un jour, venez, on va parler, et qui a insisté. Bon, deuxième exposition, Cartes, donc, grand photographe, qui était reconnu celui-là, alors que Gibson était un jeune photographe. Après, je m'étais dit, il faut faire chaque année un photographe français un peu oublié. Ça a été Isis, qui s'est mis à travailler, qui a fait plein de tirages, qui était très content de Isis, qui avait travaillé à Paris Match, qui faisait surtout les choses sur la peinture, structurer les peintres, en production de tableaux. Bon, Isis. Après ça, sous l'insistance de Jean-Philippe Charbonnier, il était très convaincu. Il avait fait un reportage au MIT, Boston, sur MIT, où il avait connu Harold Edgerton, qui était donc un scientifique qui avait inventé le stroboscope et le flash électronique. Et il faisait des photos pour se servir de ces appareils, pour montrer ce qu'on pouvait faire avec ces appareils. Et comme il avait beaucoup de fantaisie et beaucoup de talent, il faisait des photos qui étaient formidables, mais qui étaient considérées comme uniquement des expériences scientifiques. Et donc, je fais cette exposition d'Edgerton, qui est polémiquée, parce que certains trouvaient que c'était magnifique, et d'autres trouvaient que c'était pas des photographies, c'était scientifique, c'était pas un artiste. Et donc, c'était intéressant, c'était polémiqué. Maintenant, il est dans les musées, c'est admis qu'il est un photographe important. Après ça, je m'étais dit, il faut faire chaque année un jeune photographe. Et ça a été Erika Lennart, que j'avais connue en même temps que Gibson, parce qu'elle l'accompagnait quand je l'ai vue, elle avait 20 ans et elle parlait français. Et Erika Lennart était une jeune femme photographe qui a eu tout de suite son style. Ça, c'est 77. Ça, c'est voilà, sa sœur. Elle photographiait ça. Ça, c'est plus ancien, c'est plus récent. Et donc, elle fait cette exposition. Elle avait fait toutes les photos de sa sœur et de ses amis. Et elle avait fait une maquette de livre qui s'appelait « Les femmes, les sœurs ». Et c'était donc en 75, je vous rappelle que c'était l'année de la femme. C'est la première fois qu'il y a eu une année de la femme. Donc, première reconnaissance des mouvements féministes. Et donc, à son vernissage, sont venus Antoinette Fouque, qui dirigeait la librairie des femmes, les éditions des femmes, et le premier livre de photos que les éditions des femmes ont fait, c'est Les femmes, les sœurs. Ouais. Et Erika Lennart, après, est devenue une photographe de mode très connue, puis elle a photographié beaucoup les jardins. Elle est restée une photographe qui a eu son style tout de suite. Elle n'a jamais été influencée par quelqu'un, elle n'a jamais copié personne. Elle a tout de suite eu son style à elle. Et après Erika Lennart, j'ai fait August Sander, donc c'était le premier photographe qui était mort. Je n'avais pas fait beaucoup, j'ai dû faire deux ou trois photographes morts, c'est tout, parce que j'aimais bien les rencontrer. Donc August Sander, qui a été une exposition, il était complètement inconnu, et c'était seulement les photographes qui le connaissaient, et tous les photographes étaient très contents, et d'ailleurs, je n'ai vendu des photos qu'à des photographes, qui étaient tous heureux d'acheter des photos de Sander. Et pour finir, Jean-Philippe Charbonnier, qui avait eu la politesse et l'élégance d'attendre pour exposer. Donc j'étais très contente, si vous voulez, de cette première année, parce qu'elle montrait la variété de ce que je voulais montrer, c'est-à-dire tout celui qui était photographe, il faisait ce qu'il faisait. Et a priori, moi, je n'avais pas à dire au photographe, c'est ça que vous devez faire et ça, vous ne devez pas le faire. Chacun faisait ce qu'il faisait. Puis moi, alors évidemment, l'idée, c'était aussi de donner l'identité à la galerie, et de donner une identité à ce que j'allais faire, c'est-à-dire l'idée d'une photographie qu'on allait reconnaître et respecter. Donc, je pensais que ce qui était important, c'était ça. Et j'ai souvent pensé, la photographie, c'est ce que les photographes font.
Mais alors, une fois cette identité de la galerie créée, la question devient qui accueillir, par exemple.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Comment choisir les photographes? Ben, c'est ça. Je regarde et ça me... Je peux trouver ça bien, mais ça m'est assez indifférent. Ça y est, j'ai vu. Il fallait que ça apporte quelque chose à l'idée de photographie, que moi, ça m'apporte quelque chose, que moi, ça m'apprenne quelque chose sur la photographie, que ça m'apprenne quelque chose sur la vie, plus que sur la photographie, sur la vie, que ce soit quelque chose que j'ai envie de voir tous les jours. Et je me disais que le public n'était pas plus bête que moi et que si ça me plaisait, ça pourrait lui plaire. J'ai jamais pensé que moi, j'en savais plus que le public. A priori, le public, je pensais aussi intelligent que moi. Et je pensais qu'on pouvait partager. Alors évidemment, quand vous avez une galerie, vous passez votre temps à dire « Regardez, j'ai trouvé ça, c'est bien. » Et on vous répond « Pouf, pouf. » Donc on en prend plein la gueule tout le temps. Et heureusement qu'on l'entend à la place des photographes. Parce que la rencontre entre le collectionneur étant la partie la plus forte du regardeur, celui qui s'engage avec son argent en plus, et l'artiste serait trop violente. Et donc, heureusement qu'il y a la galerie qui protège l'un, qui protège l'autre. Non, en plus, avec l'idée du prix, qui est la chose la plus difficile de ce métier, de trouver le prix qui est juste. À 100 euros près, on se trompe. Et donc, il faut à la fois protéger le photographe, il faut que son travail soit respecté, il faut qu'il se sente pas volé, et il faut respecter le collectionneur, qui ne doit pas payer plus cher que ce qu'il a envie de payer pour avoir cette photo. Il y a quelque chose de très intéressant dans cet accord, être entre les deux, et ça, et en même temps, aider un collectionneur à choisir, c'est-à-dire à choisir ses photos. Ce n'est pas l'influencer, c'est l'aider lui-même à savoir ce qu'il veut. Et j'en ai connu des jeunes collectionneurs qui ont passé des après-midi à la galerie devant 3 photos où ils hésitaient. Et ils faisaient un tour, ils revenaient, ils regardaient. Moi, je les laissais faire. Et quand ils me demandaient, mais laquelle vous préférez? C'est vous qui décidez. Moi, je les aime toutes. C'était pas à moi de leur dire. C'était à eux. Et j'avais la patience d'attendre, de leur donner toutes les indications que je connaissais, les indications techniques, les indications, mais jamais celle-là est mieux que celle-là. À la rigueur, ça, c'est un excellent tirage. Celui-là, c'est pas très bon. Tout ce qui était objectif et technique. Et eux, c'était à eux de s'autoriser, parce que certains après me l'ont expliqué comme ça, de s'autoriser à aller vers ce qu'ils aimaient vraiment. Et pas de se rassurer en se disant « oui, elle est bien, et puis elle montre ça ». Non, aller à vraiment ce qui était fait pour eux. Et après, alors, au bout de 3, alors, au bout d'un, tout d'un coup, ils allaient et ils disaient « non, alors pas celle-là ». Et il en restait 2. Et ils revenaient le lendemain. Et encore, il restait des heures devant ces 2. Et à la fin, tout d'un coup, c'est celle-là. Et quelquefois, il leur fallait plusieurs fois pour apprendre. Pour eux, c'était une question d'être libre. D'être libre de leur... parce qu'ils se trahissaient eux-mêmes dans leur choix. Ils se montraient eux-mêmes. Donc, quelquefois, ils n'osaient pas. Et donc, c'est intéressant. Et puis, il y a des gens, par contre, il n'y a aucun problème. Ils regardent des photos, ils disent « moi, je veux ça ». Et c'est souvent des chefs d'entreprise, des gens comme ça qui sont habitués à décider. Et que eux, si ça leur plaît, c'est que c'est bien. Ils ne sont pas culpabilisés à l'idée « est-ce que je vais bien choisir ? Est-ce qu'elle va se foutre de ma gueule parce que j'ai mal choisi ?» Eux, ils sont sûrs, ils aiment ça, c'est bien. Donc il y a tous les... C'est une vraie séance d'analyse, c'est très très intéressant, c'est très intime, et c'est très intéressant. Donc le rapport de la galerie au collectionneur est aussi intéressant que le rapport au photographe. On pense toujours que c'est le rapport à l'artiste qui est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais le rapport au collectionneur est passionnant aussi. Donc on est on organise cette rencontre et c'est fort et sans pitié.
Merci Agathe. Si on considère que le principe même de la photographie, c'est la rencontre, puisqu'on ne peut pas encore photographier à distance, il est clair que ton métier, c'est une sorte photographie au second degré, faire passer les œuvres d'artistes à des collectionneurs qui vont les voir. Et c'est toi qui assures cet échange, ce milieu.
Organiser la rencontre, mais pas la diriger, aider à ce qu'elle se passe. Et donc pour ça, il faut être très, justement, très, très humble. Ne pas vouloir influencer.
Bien.
Donc on assiste à quelque chose. On assiste à quelque chose, oui. Qui est la rencontre de l'artiste qui, après tout, il fait son art pour le donner, pour que les gens le comprennent. Ils espèrent que les gens vont le comprendre, vont l'aimer, vont... J'imagine, du moins. Et ceux qui viennent chercher une œuvre d'art parce qu'elle va les remplir de quelque chose dont ils ont besoin. Et donc, c'est du sérieux, hein. C'est du sérieux ce qui se passe. On ne peut pas rigoler avec ça. Alors oui, il y a l'argent. Bon, l'argent, bonjour, l'argent. Évidemment, il y a de l'argent. Un échange de choses, il y a de l'argent. Mais c'est pas le plus motivant.
Je propose qu'on vous donne la parole.
Oui.
Un petit peu, parce que là, je pose moi les questions que j'imagine être celles que vous pourriez vous poser, mais ce sera encore mieux si c'est direct. On va prendre un petit peu de temps.
D'ailleurs, moi, je suis très heureuse de vous rencontrer. Je serai très contente d'entendre vos questions.
Bonjour. Je pense que vous avez connu une époque de révolution au niveau de l'image numérique par rapport à l'image argentique. À l'époque, les artistes faisaient des tirages, ce qu'on appelait des tirages limités, 5 ou 10 exemplaires maximum, qui étaient tous uniques, puisqu'ils étaient faits manuellement.
Oui.
Maintenant, pour un tirage éventuellement limité à 5 ou 10 exemplaires, ils sont strictement identiques. Quel est votre point de vue sur justement cette différence de technologie, vous en tant que galériste et pour les acheteurs?
Ben moi, je préfère les tirages argentiques parce qu'ils sont pleins de choses sensibles et il y a une énergie formidable, je le préfère. Maintenant, si les photographes décident de faire des tirages numériques, ben c'est eux qui décident. Il y en a de bien. Simplement, ce que je trouvais, c'est que le tirage numérique, c'est plutôt présenté comme une contrefaçon possible. On vous dit, oh, c'est aussi bien qu'un tirage argentique. Alors, pourquoi changer? Faites-moi un tirage numérique qui ressemble à un tirage numérique, qui apporte quelque chose de nouveau. Bon, cela dit, évidemment, le problème des tirages numériques, c'est qu'ils sont tous pareils et qu'on peut en faire beaucoup. Alors que les tirages argentiques, des beaux tirages, on ne peut pas en faire beaucoup. Parce que moi, j'ai remarqué que les photographes, quand vous en avez vendu 3 de la même, ils disent, ah ouais, toujours la même, quoi. Bon, donc, et effectivement, on les fait à des moments différents, dans un état d'esprit différent, ils vendent du papier différent, ils sont tous uniques. Je suis bien d'accord, tout le monde ne le comprend pas, mais ils sont tous uniques. Mais on garantit... parce que c'est pratique, parce qu'on n'en peut plus que les gens discutent que sur ça, bon, on les limite. De toute façon, c'est pas mal aussi que les acheteurs comprennent que c'est pas, il n'y en aura pas 1000. Bon, il n'y en aura que 15, mais il n'y en aura que 15, voilà. Et, ça les rassure, et en même temps, après, ils font d'autres photos, donc c'est pas tellement un problème. Mais votre question, c'était... Alors, le tirage numérique, c'est encore plus de raisons de les limiter. Parce qu'effectivement, ils sont illimités, oui. Donc, on met des numéros pour garantir qu'il n'y aura que ce... Mais en même temps, c'est un peu ridicule, puisqu'un tirage numérique, puisqu'on peut en faire 250, ou 500, pourquoi on ne les ferait pas? Donc, ce n'est pas très bien. Si vous voulez, ce marché de la photo, il s'est créé sur la photo argentique. Et le numérique court après l'argentique, essaie de profiter de ce que l'argentique a créé. Mais effectivement, vous avez raison, il y a une contradiction. Pourquoi on limite les tirages alors que les tirages argentiques, on peut les dire tirage fait en telle année, et ce n'est pas le même que celui qui en sera fait 3 ans après. Et ils ont une identité propre. Tirage numérique, vous appuyez sur un clic, comme on dit. Et effectivement, il y a quelque chose de contradictoire.
Mais vous, en tant que galériste, quand vous avez exposé un auteur qui travaille par exemple, qu'en numérique, parce que vous avez une évolution automatique, quelle va être votre position à ce moment-là, quand tous les douaneaux, quand
tous
ces clichés...
J'ai fait des photographes qui travaillaient avec des négatifs et des tirages de numérique. Et maintenant, qui travaillaient qu'en numérique, oui, un petit peu. Oui, si j'en ai fait. Généralement, ça se trouve que c'est des photographes qui ne tenaient pas à en vendre beaucoup. Donc, effectivement, il est... Et puis, il y a aussi quelque chose qui empêche, c'est que les tirages sont chers quand même. Un tirage numérique coûte aussi cher qu'un tirage argentique. Donc, ça limite ça. Hein ?
Ouais.
Ça limite quand même aussi. Je ne sais pas, je reconnais que c'est une contradiction. Et justement, je pense que mes successeurs, puisque moi maintenant, je reconnais que le monde qui va venir maintenant n'est plus le mien. J'ai vécu des époques tout à fait agréables et libres. Et que je trouve que le monde maintenant ne me correspond plus vraiment parce qu'on n'est plus libre. Et donc, je pense que ça va être les problèmes que vont résoudre mes successeurs plus jeunes qui, eux, trouvent que le monde actuel est très bien. Donc, c'est à eux de régler ces problèmes-là. Moi, je me suis préoccupée de ceux de mon époque. Peut-être qu'il n'y aura plus de marché de l'art. Que tout sera gratuit sur Internet, j'en sais rien. Peut-être qu'on saura plus que c'est qu'un tirage. Je crois pas, parce que ce serait horrible, mais...
Merci.
C'est aux jeunes de décider.
Nous avons vu beaucoup de photos noires et blancs.
Oui.
Quelles sont les photos couleurs qui vous ont bouleversé ?
Ah ben, c'est vrai que j'ai exposé plus de noirs et blancs que de couleurs, mais j'aime bien photos couleurs. Ben, la première que j'ai exposée, c'était Gisèle Freund. Et puis après, plus récemment, Luc Choquer, Thierry Girard, qui eux sont deux photographes, Luc Choquer et Thierry Girard, qui ont travaillé d'abord en noir et blanc et qui n'ont vraiment pris leur personnalité que quand ils ont fait en couleur. Et qui sont de merveilleux photographes en couleur où je trouve les mêmes qualités que dans la photo noir et blanc. C'est-à-dire que j'aime pas dans une photo couleur, je n'aime pas si on voit que la couleur, parce que je sais que l'herbe est verte, je sais que le ciel est bleu, je m'en fous de ces informations-là. Mais quand elles expriment quelque chose comme le noir et blanc, elles me touchent. Sinon, oui, j'ai exposé des photos couleurs, plus qu'on ne croit, oui.
Il y a eu Bernard Faucon aussi.
Bernard Faucon, bien sûr. Bernard Faucon, oui.
Je vous montre Bernard Faucon pour ceux qui ne le connaissent pas.
Bernard Faucon a été très important. Bernard Faucon photographiait les souvenirs d'enfance en faisant des mises en scène, des maquettes avec des mannequins ou aussi quelques enfants vivants.
Et puis il y a ces chambres d'amour.
Les premières, voilà, c'était les grandes vacances et puis les plaisirs et les jeux de l'enfance. Les années 80.
Et parmi les photographes couleurs que tu as cités, Thierry Girard est un photographe de chez nous.
Et qui photographie très très bien la France. La France telle qu'on l'aime.
J'avais été très surprise en arrivant à la galerie, en découvrant une série sur les églises telles qu'on en a dans les Deux-Sèvres, dans les villages. Ces églises 19e, un peu grises, qui se ressemblent toutes. Ça a été un choc en entrant dans la galerie de retrouver ces églises de village des Deux-Sèvres, comme en fait je ne les avais jamais regardées.
C'est-à-dire qu'il avait fait, en 2000, il avait tracé un trait sur la carte droit entre Monaco et la Bretagne, et puis il a suivi cette ligne en s'en écartant le moins possible et en photographiant donc. Non pas en choisissant des paysages pittoresques ou jolis, mais tels que c'était, la France telle qu'elle est. Et donc des paysages qui auraient pu passer pour sans intérêt. Et c'est magnifique ce livre. Hein ? D'une mer à l'autre. Ouais.
Oui, en ce moment dans la photographie, il y a une grande mode par rapport aux séries en fait. On ne propose plus une photo, mais une série de photos. Je voulais savoir ce que vous en pensez par rapport à ce que vous avez exposé antérieurement.
Vous trouvez qu'on travaille par série?
C'est quand même là, même dans les stages photo à Arles et tout ça, on vous propose construire une série, enfin écrire sur une série. Il y a beaucoup de choses au niveau de la série photo en
dans
ce moment.
Dans un stage, c'est normal parce que ça aide à travailler. Je pense que les expositions ont influé sur ça, puisque une exposition, c'est quand même une cohérence, il faut que les photos soient, et une cohérence. Et cette cohérence peut se trouver avec des photos complètement qui viennent de lieux très différents. Mais la manière la plus simple, si ce n'est pas simpliste, faire une exposition, c'est de faire une série. Ça fait un tout. Je crois qu'au départ, c'était une... Ben, en même temps, quand on travaille sur un sujet, bon, on fait plusieurs photos, donc effectivement, ça fait un ensemble. Avant, les photographes travaillaient pour 8 photos. C'était une bonne parution dans un journal, c'était 8 photos. Donc ils cherchaient à en avoir 8. Bon, maintenant, ils cherchent plutôt l'idée d'une exposition. Donc une série est plus longue. Mais une exposition peut être parfaite avec des photos qui viennent disparates. Et c'est la cohérence qui compte. Alors c'est une façon facile de trouver une cohérence, de faire tout sur le même sujet. Je pense qu'on n'est pas obligé, mais ça aide à travailler, ça aide à se concentrer sur un sujet.
Je viens de mettre dans ton dos les portraits d'Auguste Sander, des hommes du XXe siècle.
Oui.
Ça, quand il y a un projet, qu'il y a un protocole, il y a une unité, évidemment. Voilà. Mais...
Oui, ben lui, c'était ça, homme du XXe siècle, photographié. Mais ça a été un projet de sa vie, ça, toute sa vie, oui. Ah non, il a fait des paysages aussi.
Oui, un peu. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. Ouais. Peut-être une dernière question, parce qu'il nous faudra rendre la salle.
Oui, vous disiez tout à l'heure, l'œil, on l'a ou on l'a pas. Ouais. Et puis, vous avez fait une autre réflexion dans ce sens-là. Est-ce que vous ne pensez pas que le regard s'éduque? Pensez-vous que le regard
s'éduque? Le regard s'éduque tous les jours. Ben bien sûr, plus on regarde et plus on voit, bien sûr. Bien sûr, mais encore faut-il accepter de voir. Parce que beaucoup, il y a des gens qui refusent de voir, qui ne veulent jamais voir la réalité. Les menteurs, ils ne savent pas ce que c'est que la réalité. Ils la nient tout le temps. Il ne faut pas avoir peur pour regarder. Il faut regarder les choses comme elles sont, sans pitié. Mais sans pitié, ça ne veut pas dire méchamment. On les regarde telles qu'elles sont et on arrive à les aimer telles qu'elles sont. Et justement, ça, c'est, normalement, l'appareil photo, il n'a pas d'affect. Donc, c'est pour ça qu'il aide. Quelquefois, on peut regarder une photo en se disant, c'est comme ça. Ça aide à regarder la réalité. Elle fait peur, souvent, la réalité. On a peur de soi-même, de ce qu'on voit. Et la photo, l'appareil photo, il n'a pas peur. Donc... Bien sûr que le regard s'éduque. Si vous regardez des belles choses, vous verrez plus facilement les belles choses. Si vous regardez que des horreurs, ça ne vous développera pas non plus le goût. Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur de regarder tout. Rien n'est pas regardable. Par exemple... on parle de voix, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, je ne regarde jamais la télévision. » Si, moi, je regarde la télévision. Parce que c'est intéressant de voir ce qu'on y voit, justement. Il faut savoir que ça existe, ça. Mais si on regarde les choses avec un regard qui n'a sans peur, c'est-à-dire à la fois un regard critique et bienveillant à la fois, ça peut être, en se disant « Les choses sont comme ça. » Effectivement, on s'améliore. Le tout, c'est psychologique. Des gens qui ne veulent pas voir. Et il faut accepter que les choses sont ce qu'elles sont et de les voir.
Et continuer.
Ben oui.
À apprendre, à en voir d'autres.
Oui, c'est... oui, bien sûr, ça n'a pas de fin. Tant qu'on est vivant, on voit quelque chose. Tant qu'on est vivant, il y a du nouveau.
Et encore une question, si vous voulez.
C'est pas vraiment une question, c'est simplement pour revenir sur votre travail. Vous en avez parlé quelque part en évoquant le jardin, le jardinier, tous les artistes avec lesquels vous avez travaillé, les plus matures, les arbres, les plantes les plus petites, les plus florissantes, etc. J'ai beaucoup aimé cette relation au jardin que vous faites avec votre galerie. Juste un mot pour conclure, justement, quel est dans ce jardin aujourd'hui, avec ce monde qui change que vous venez d'évoquer à l'instant, quels sont les plus saisissantes plantes à regarder là, avant que vous ne partiez, nous conseiller vers quel regard nous tourner dans les plus jeunes, par exemple?
Est-ce que vous me demandez quels sont les photographes que je préfère?
Dans
les plus jeunes?
Les plus jeunes que vous avez vus surgir et que vous n'exposerez pas, mais que vous pouvez conseiller à la nouvelle directrice de votre galerie de présenter. Voilà. Juste ceux que vous allez quitter finalement, puisque vous ne travaillerez plus avec eux, mais que vous avez repérés, que vous avez aimés, que peut-être vous regrettez de ne pas choisir maintenant de présenter.
Je ne sais pas si je peux répondre. Je ne sais pas si j'ai envie de répondre. Ça ne me regarde plus. C'est à eux de vivre leur vie. C'est à eux de trouver des galeries avec qui s'entendent. Ça ne me regarde pas. Je ne veux pas me mêler de... J'assume mon époque, mais ça ne me regarde plus. C'est à chacun à se faire la société où il souhaite vivre. Voilà, moi j'ai vécu dans une société merveilleuse de rebelles, très libres, où rien n'était interdit. Bon, maintenant tout est interdit, tout est moralisé. Ok, faites avec, peut-être que ça va être formidable. Mais moi, c'est plus pour moi. Excusez-moi. Excusez-moi, mais vous m'avez posé la question. Je ne sais pas mentir. Mais je trouve formidable que la société change, mais sans moi. Et j'espère qu'il y aura toujours des artistes, et je pense qu'il y aura toujours des artistes, c'est-à-dire des gens qui sont libres. Artiste, ça veut dire, c'est dire je. C'est dire je. Artiste, c'est être libre. Et les artistes qui ne sont pas libres ne sont pas des artistes, c'est juste des gens qui veulent profiter du marché de l'art et s'y infiltrer. Et malheureusement, il y en a qui se contentent de ça. Comment entrer dans le marché de l'art? Mais être artiste, c'est aller contre. Il faut être très courageux pour être artiste, dire toute ma vie je vais être libre, je vais dire je. Je ne serai pas d'accord, mais c'est ça que je dirais envers et contre tout, et je vous convaincrai. C'est quand même une tâche magnifique, mais incroyable. Mais on est beaucoup plus libre qu'on ne croit. Et il n'y a rien de plus intéressant dans la vie que d'être libre. On paye le prix, mais quel bonheur, quelle aventure. Vous faites faire un peu de morale à la fin.
C'est une invitation à l'audace.
Oui, absolument, c'est une invitation à l'audace. Vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien. Faites ce qui vous plaît. Dans l'art, je ne dis pas faites ce qui vous plaît, n'allez pas zigouiller votre voisin. Mais certains, oui, ça peut arriver. Non, mais je veux dire, on est libre d'exprimer ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous risquez?
Bon, je crois qu'on va, terminer sur cette invitation et remercier Agathe Gaillard.
Je vous remercie.
Merci à vous d'être venus. Merci aux étudiants de Master LCI et à ceux de l'Université citoyenne que je reconnais pour quelques-uns, et merci aux premières années qui ont eu l'audace de venir jusqu'à l'espace Mendès France pour la première fois ce soir. À bientôt à tous, j'espère. Bonne soirée.